Il y a plus de 2000 ans, au cœur d'une Judée complètement étouffée par l'occupation romaine, il faut bien se dire que l'attente générale, c'était pas du tout de voir débarquer un philosophe pacifiste.
Ah ben non, clairement pas. Les gens voulaient un général implacable, tu vois.
Ouais, un libérateur prêt à faire couler le sang pour écraser l'Empire romain, quoi.
C'est ça. Et pourtant, la figure historique qui émerge de cette période se présente d'une manière radicalement opposée.
C'est fou quand on y pense. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, on fait une plongée vraiment approfondie dans les recherches du docteur Robert Chisholm. Je suis tellement fasciné par son travail.
Ouais, son analyse des fameux chants du serviteur dans le livre d'Ésaïe, c'est vraiment incontournable pour quiconque s'intéresse à ces textes.
Absolument. En gros, son travail propose de décortiquer comment des textes qui ont été rédigés des siècles avant notre ère ont brossé le portrait d'un personnage rempli de paradoxes.
Un personnage qui est à la fois un roi avec une autorité absolue et en même temps un serviteur marqué par la souffrance. C'est hyper contre-intuitif.
C'est clair. Donc, ok, décortiquons tout ça. Notre mission pour cette analyse, c'est de comprendre par quel mécanisme littéraire et historique les auteurs du Nouveau Testament se sont appropriés cette figure antique.
Et surtout, comment ils l'ont utilisée pour redéfinir totalement la notion même de victoire, en fait. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut vraiment se replonger dans le contexte politique de l'époque pour saisir l'ampleur du truc.
Ouais, parce que la nation juive, sous la domination romaine, elle avait un précédent historique très fort en tête, non ?
Exactement. Il y a eu la révolte des Maccabées, environ un siècle et demi plus tôt. Et cette révolte armée, qui était super brutale et sanglante, elle avait réellement fonctionné contre les oppresseurs grecs.
Donc en gros, l'attente d'un messie militaire, c'était pas juste une belle fantaisie poétique pour eux.
Non, pas du tout. C'était un modèle politique concret qui avait fait ses preuves, tu vois. Donc l'idée qu'un sauveur puisse triompher par la souffrance ou l'humiliation, c'était...
C'était complètement absurde stratégiquement parlant.
Ouais, ça allait à l'encontre de toute logique.
C'est vraiment ce qui rend l'introduction de la figure de Jésus dans les évangiles si déroutante dès le départ. Enfin, je veux dire, on commence pas du tout avec des récits de levée d'armée.
Ah non, c'est tout l'inverse.
Dans le temple.
Ouais, la fameuse scène de la présentation.
Voilà, il tient le nouveau-né et au lieu de prophétiser genre la destruction de Rome par le feu et le fer... Il annonce que cet enfant sera une lumière pour la révélation aux nations.
Et ça, historiquement, on l'a souvent lu un peu vite, comme si c'était juste une jolie formule poétique pour célébrer une naissance.
Exactement. Mais en réalité, c'est tout sauf aléatoire, n'est-ce pas ?
C'est ça. Selon l'analyse de Chisholm, c'est de l'ingénierie textuelle super précise. Siméon, là, il combine deux passages spécifiques, Ésaïe 42, verset 6 et Ésaïe 49, verset 6.
Ah oui, donc il cite directement les textes anciens.
Ouais. Et dans le contexte d'Ésaïe, ces versets-là, ils décrivent la mission du fameux serviteur. Une mission qui consiste à apporter la lumière aux non-juifs. Les païens, quoi.
Les gentils, comme on les appelait. Et donc, en insérant ces citations exactes dès le deuxième chapitre, l'auteur fait quoi, en fait ?
Il pose une fondation littéraire immédiate. C'est un signal d'alarme pour les lecteurs de l'époque. Il leur dit « Attention, ce personnage ne va pas du tout suivre le chemin d'un roi guerrier classique. »
Il est coulé dans le moule du serviteur d'Ésaïe dès sa naissance.
Exactement. Dès la case départ.
C'est dingue. Et ce moule devient encore plus paradoxal quand on avance vers sa vie d'adulte, tu trouves pas ?
Oh que oui. Particulièrement au moment de son baptême.
Ouais, parlons du baptême dans le Jourdain. Je veux dire, la logique voudrait qu'un roi qui inaugure son règne se distingue de la masse.
C'est sûr. Il devrait arriver sur un cheval blanc ou au moins en grande pompe.
Mais là, le récit le montre, en train de faire la queue avec la population pour être purifié par Jean-Baptiste. D'un point de vue narratif, c'est presque un suicide médiatique, non ?
C'est vrai que vu de l'extérieur, c'est très étrange.
S'il est censé être cette figure d'autorité parfaite, aller se mélanger aux coupables dans une rivière boueuse, ça ruine complètement sa crédibilité le premier jour. D'ailleurs, Jean-Baptiste lui-même piche pas la démarche.
Et c'est une objection tout à fait légitime, tu sais. Se mêler aux coupables, ça paraît être un désastre stratégique.
Sauf si, évidemment, le plan n'est pas ce qu'on croit.
Voilà. Sauf si la stratégie, c'est pas la domination, mais la substitution. L'acte de se faire baptiser, ici, c'est pas du tout un aveu de culpabilité.
C'est quoi alors ?
Une sorte de solidarité ? Plus que ça. C'est une identification volontaire à la condition humaine déchue. En fait, c'est l'anticipation physique de ce qui est décrit un peu plus loin dans Ésaïe 53. Où le serviteur porte les fautes des autres.
Ah, je vois. Tu sais, si on cherche une analogie pour illustrer cette mécanique de substitution, on pourrait comparer ça à une faille juridique créée délibérément.
Comment ça ?
Bah, imaginons un PDG hyper riche, le garant financier ultime, qui signe volontairement un contrat toxique en bas de la page.
Ok, je te suis.
Il sait pertinemment que les employés, qui sont les débiteurs initiaux, vont faire défaut. Mais il signe pas parce qu'il a besoin du contrat. Il s'insère juridiquement dedans pour absorber la dette écrasante quand elle va tomber.
Ah ouais, pour faire exploser le système de l'intérieur.
C'est ça. En absorbant la dette, il annule les créances de tout le monde.
C'est une super image. L'analogie du garant illustre vraiment bien ce concept de transfert de responsabilité.
Ouais, il prend la place des autres.
Et le texte va même plus loin, en scellant cette identité par une intervention extérieure. Toujours pendant ce baptême, les évangiles nous rapportent qu'une voix céleste se fait entendre.
La fameuse voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ».
Exactement. Et c'est là que l'assemblage textuel atteint vraiment son apogée, selon Chisholm.
D'accord, mais attends, en quoi cette phrase-là est-elle si fondamentale? Je veux dire, à première vue, ça ressemble juste à une validation divine classique.
Ça en a l'air, mais en fait, elle fusionne deux visions du monde qui étaient jusqu'à présent totalement inconciliables.
Ah oui, le psaume 2, c'est ça?
Tout à fait. « Tu es mon fils », ça vient directement du psaume 2. Et ça, c'est un texte qui est profondément ancré dans l'idéologie royale davidique.
Le roi conquérant avec son sceptre de fer qui brise ses ennemis.
Exactement, la force pure. Mais l'ajout qui suit « en qui j'ai mis mon affection », associé au fait que l'esprit descend sur lui, eh bien c'est la traduction quasi littérale du premier verset du chapitre 42 d'Ésaïe.
Le chapitre qui introduit le serviteur humble. C'est brillant.
Ouais. En une seule phrase, tu as la royauté absolue et la servitude totale qui sont fusionnées.
Donc le texte nous indique que ce gars-là va exercer l'autorité écrasante du psaume 2, mais en utilisant exclusivement les méthodes pacifiques d'Ésaïe 42.
C'est exactement le paradoxe central de toute cette histoire.
Et mais du coup, une autorité royale exercée par la servitude, ça soulève quand même un gros problème narratif pour la suite.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Bah, si sa méthode, c'est la servitude, le retrait, la substitution, pourquoi est-ce qu'il passe les chapitres suivants, comme dans Matthieu 4, à utiliser un pouvoir carrément écrasant pour guérir des maladies incurables et chasser des démons ?
Ah, la question des miracles !
Ouais, je veux dire, si le but, c'est pas de prouver sa force pour recruter une armée contre Rome, à quoi elle sert, cette démonstration de puissance physique ?
C'est une excellente question. Et pour y répondre, il faut vraiment changer notre perception de ce que représente la maladie dans cet texte ancien.
Ce n'est pas juste de la biologie qui tourne mal.
Non, pas dans cette théologie-là. La maladie, la mort, la souffrance physique, l'auteur explique que ce ne sont pas des simples anomalies. Ce sont les symptômes visibles et inévitables d'une rébellion cosmique.
Ce que la Bible appelle le péché, en gros ?
Exactement. Donc ces guérisons ne sont pas des démonstrations de force politique ou militaire. Ce sont des affrontements juridictionnels, tu vois.
Ah d'accord. Il montre qu'il a le droit d'agir sur ces domaines.
Il démontre qu'il possède une autorité absolue sur les conséquences même de la chute humaine.
Donc si je reprends une image médicale, ces guérisons, ce serait comme soulager temporairement la fièvre d'un patient juste pour prouver qu'on est bien un médecin qualifié.
Ouais, c'est une bonne comparaison.
Et ensuite, seulement après avoir prouvé ça, on s'attaque à l'infection de fond par une opération super lourde. L'opération lourde étant son sacrifice final.
C'est exactement l'idée. Les guérisons prouvent sa compétence. Elles montrent sa juridiction, mais elles ne règlent pas le problème fondamental à la racine. Ça se fera plus tard par le sacrifice du serviteur.
C'est super clair vu comme ça. Et il y a un détail crucial dans ces guérisons qui me fascine toujours, c'est leur portée géographique.
La Syrie et la Décapole.
Oui. Les évangiles prennent vraiment le temps de préciser que la renommée de ces actes va jusqu'en Syrie et dans la Décapole. C'est pas anodin du tout.
Ah non, parce que ce sont des régions païennes.
Exactement. Des zones habitées par des non-juifs. Donc on voit l'exécution concrète de cette promesse du premier chant d'Ésaïe, la fameuse lumière pour les nations.
Le champ d'action déborde des frontières ethniques d'Israël, et ce, dès le début de son ministère.
Voilà. Mais c'est justement là, au sommet de son succès, que l'attitude du personnage devient totalement, incompréhensible.
Tu penses au chapitre 12 de Matthieu ?
Oui. Les foules le suivent partout, il est célèbre, il pourrait totalement capitaliser sur cette renommée pour organiser un vrai mouvement de masse. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il bat en retraite.
Le fameux secret messianique.
C'est ça. Il exige des gens qu'il vient de guérir de se taire. Il leur dit de garder le silence. Je veux dire, s'il est là pour sauver le monde, pourquoi organiser l'étouffement de sa propre campagne de com?
C'est vrai que, vu sous l'angle du marketing moderne, c'est absurde. Mais c'est là que la politique du premier siècle entre en jeu.
À cause des Romains?
Les Romains, oui, et les mouvements zélotes aussi. Les rébellions armées étaient monnaie courante. Si un gars aussi charismatique, capable de miracles, se déclarait ouvertement comme le messie libérateur, la population s'en serait emparée.
Il l'aurait forcé à prendre la tête d'une insurrection armée?
Directement. Et Rome serait intervenue avec ses légions pour écraser le mouvement dans un bain de sang monumental. Donc ce repli, ce secret messianique, c'est une nécessité stratégique absolue pour éviter un massacre.
Et c'est intéressant parce que pour justifier cette stratégie de repli, l'auteur de Matthieu cite encore explicitement Ésaïe 42. Il dit « Il ne contestera point, il ne criera point, il ne brisera point le roseau cassé ».
Le roseau cassé, ouais. Une image super puissante.
Ce roseau cassé, ça fait référence aux gens les plus broyés par la vie et par le système, non?
Et c'est l'idée, oui. Les plus vulnérables.
Et donc, s'il avait déclenché une révolution militaire classique contre Rome, la guerre aurait inévitablement écrasé ces populations fragiles au passage.
C'est inévitable dans toute guerre.
La méthode pacifique, ce retrait stratégique, c'est donc littéralement le seul moyen de protéger ceux qu'il est venu sauver.
C'est une lecture très, très fine de la mécanique prophétique, oui. Et cette identité cachée, du serviteur, elle refait d'ailleurs surface de manière spectaculaire lors de la transfiguration.
Ah, ce moment sur la montagne où Jésus apparaît brièvement dans un état de gloire avec Moïse et Élie.
Voilà, la voix divine retentit, à nouveau à ce moment-là. Mais l'analyse textuelle de Chisel révèle un détail incroyable ici.
Vas-y, dis-nous tout.
Si tu compares, l'évangile de Matthieu rapporte la voix disant « En qui j'ai mis mon affection ?» Mais si tu lis la version de Luc, il rapporte « Celui-ci est mon fils, l'élu ».
Ah, c'est marrant, ça ressemble à une contradiction, il y a une différence de termes.
Ça en a l'air, oui, mais si on creuse, ça pointe vers une source commune impressionnante.
Et Ésaïe 42, encore ?
En plein dans le mille. Dans le texte original d'Ésaïe 42, verset 1, on trouve simultanément les deux termes. « Mon élu » et « En qui mon âme prend plaisir ».
Ah, c'est génial. Donc les deux auteurs, Matthieu et Luc, puissent simplement dans le même puits textuel, mais ils choisissent des mots différents pour certifier exactement la même chose.
C'est ça, l'accomplissement du chant du serviteur.
C'est vraiment fascinant. Mais tu sais, si l'emboîtement entre l'Ancien et le Nouveau Testament semble si parfait, l'architecture même du livre d'Ésaïe, à la base, elle pose quand même un vrai problème de cohérence.
Tu penses à l'écart entre les chapitres?
Ouais, exactement. Le premier chant du serviteur est au chapitre 42. Le deuxième chant n'apparaît qu'au chapitre 49. Il y a un gouffre de 7 chapitres entiers entre les deux.
C'est pas rien, 7 chapitres.
Pourquoi le prophète crée-t-il une telle interruption dans son récit? Ça casse tout le rythme de présentation de ce personnage.
Alors, ça, c'est pas du tout une erreur d'édition ou un accident. C'est un contraste hyper délibéré. Dans cet interstice, le texte met en scène une autre figure historique majeure.
Cyrus le Grand, c'est ça?
Le roi perse.
Exactement. Et historiquement, Cyrus est l'instrument politique massif que Dieu utilise pour vaincre Babylone et permettre aux exilés juifs de rentrer chez eux.
Donc c'est le libérateur géopolitique parfait.
Voilà. L'auteur d'Ésaïe utilise Cyrus pour incarner le sauvetage temporel, militaire.
C'est comme une mise en abîme. Il nous déploie d'abord toute la puissance d'un vrai conquérant physique avec ses armées et ses empires.
Et ensuite, bim! Au chapitre 49, il réintroduit le serviteur. Pour bien montrer le contraste, en fait. Pour dire, ouais, l'action de Cyrus, c'est cool, point sauvetage immédiat, mais ça règle rien au problème spirituel de fond de l'humanité.
C'est tout à fait ça. Le vrai libérateur n'est pas celui qui porte l'épée sur un champ de bataille physique.
Sauf que, et là il y a un truc qui m'échappe dans ce fameux chapitre 49, le vocabulaire devient hyper martial. Le serviteur dit un truc du genre « Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. »
Et il a fait de moi une flèche aiguë.
Ouais, bah tu m'excuseras, mais ça reste d'une grande violence symbolique. On insiste depuis tout à l'heure sur le fait qu'il est doux, qu'il brise pas le roseau, et soudain il a une bouche qui tranche et transperce. C'est pas un peu contradictoire?
Ça le serait si on parlait d'armes physiques. Mais ici, l'armement est relocalisé dans la fonction prophétique. C'est une violence, oui, mais ciblée contre l'illusion et le mensonge.
Une épée, ça sépare, une flèche, ça atteint un point précis.
Chisholm souligne bien ça. Cette métaphore, elle décrit l'efficacité redoutable de sa parole. Le serviteur n'est pas juste un gars passif qui encaisse les coups.
C'est le porte-parole absolu de la réalité, en gros.
Voilà. Ces mots ont le pouvoir de trancher entre la vraie justice et l'hypocrisie des systèmes religieux ou politiques en place.
Ce qui explique assez logiquement l'animosité viscérale des élites de l'époque à son égard. Personne n'aime se faire trancher par la vérité.
C'est clair. Ça ne pardonne pas.
Ce qui nous amène à la question centrale de sa mission et à un paradoxe littéraire qui semble presque insoluble au premier abord.
Oh, l'identité au chapitre 49, je parie.
Exactement. Au verset 3, le texte fait parler Dieu qui s'adresse au serviteur et lui dit « Tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai ». Donc, son identité est claire, il s'appelle Israël.
Et c'est là que ça se corse.
Mais ouais.
Parce que deux versets plus loin, au verset 5, le texte nous sort que la mission de ce serviteur nommé Israël, c'est de ramener la nation de Jacob et d'Israël vers Dieu.
Ramener Israël à Israël.
Mais comment la nation d'Israël peut-elle avoir pour mission de sauver la nation d'Israël? C'est une boucle infinie, la logique s'effondre complètement.
Ça paraît insensé, mais ce paradoxe, c'est la clé de voûte de toute la démonstration de Chisholm. Son analyse démontre que le serviteur du verset 3, ce n'est pas le peuple historique d'Israël.
C'est quoi alors? C'est l'incarnation d'un Israël idéal. Tu vois, historiquement, la nation avait une vocation. Elle devait obéir aux lois divines et devenir un modèle pour le monde entier.
Sauf que le constat des prophètes, c'est que c'est un échec cuisant.
Un désastre, ouais. La nation est devenue sourde, aveugle et a fini en exil. L'idée ici, c'est qu'un individu unique vient assumer l'identité de toute la nation.
Il devient la nation à lui tout seul pour accomplir la mission qu'ils ont ratée. C'est brillant. Et ça explique une des bizarreries les plus frappantes du Nouveau Testament.
Tu penses à l'utilisation d'osée par Matthieu, hein ?
Exactement. Quand l'auteur de Matthieu raconte que Jésus enfant revient d'Égypte, il cite le prophète Osée et dit « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ».
Alors que dans son contexte, Osée parle clairement du passé de la nation, de la sortie d'Égypte.
Oui, il parle du peuple rebelle. Utiliser un texte qui décrit une rébellion passée pour l'appliquer à un bébé parfait, si on lit ça froidement, on se dit que c'est un rattrapage narratif complètement artificiel. Genre, ils ont forcé la citation.
Ça a l'air forcé selon nos critères modernes. Mais pour les auteurs anciens, c'est de la typologie.
La typologie. Tu peux préciser un peu pour ceux qui nous écoutent ?
Bien sûr. Ce n'est pas juste sortir des prédictions hors de leur contexte. C'est une façon de voir l'histoire comme une structure fractale. L'histoire se répète selon des motifs précis.
Ah, je vois.
Matthieu trace une cartographie délibérée. Il nous montre que Jésus refait exactement le même parcours que la nation d'Israël, mais lui, il réussit chaque épreuve.
Le parallèle le plus flagrant de cette cartographie, c'est l'épreuve du désert. L'Exode raconte que la nation a passé 40 ans dans le désert et ils ont tout raté.
Ils ont murmuré, ils sont tombés dans l'idolâtrie, la totale.
Et dans les évangiles, on a Jésus qui est poussé dans le désert pour y passer 40 jours. Face aux tentations, il ne succombe pas.
Et le plus beau, c'est la méthode qu'il utilise pour contrer le diable.
Ouais, il fait pas appel à des pouvoirs magiques, il cite le livre du Deutéronome, et précisément les passages qui relataient les échecs collectifs d'Israël dans le désert.
C'est magnifique. En tant qu'Israël idéal, il réécrit la copie qui avait été ratée par la nation.
Il corrige l'histoire de l'intérieur. Mais, attends, si ce serviteur réussit là où tout le monde a échoué, comment cette victoire hyper individuelle peut-elle profiter au collectif qui lui est toujours rebelle?
Et c'est là qu'on revient au chapitre 49, verset 7. Le succès de ce serviteur va obligatoirement passer par un rejet total.
Méprisé par les nations et soumis aux dirigeants.
Exactement. Ça anticipe directement son procès face aux élites religieuses et à Pilate. Et c'est ce sacrifice qui devient le mécanisme d'une nouvelle donne pour l'humanité.
Une nouvelle donne qui nous amène tout droit au fameux chapitre 55 d'Ésaïe, l'appel à la nouvelle alliance.
Ah, ce chapitre. Venez acheter du vin et du lait sans argent.
Ouais, la gratuité totale. Mais tu sais, dans ce chapitre, il y a cette citation qu'on entend partout, constamment, sortie de son contexte.
Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix sont plus élevées que vos voix.
Voilà, on entend ça tout le temps, pour justifier l'incompréhensibilité de la vie. Genre, un truc tragique arrive et on dit « Ah bah, les voies de Dieu sont impénétrables, on peut pas comprendre le mystère de la souffrance ».
C'est vraiment la pire déformation de ce texte. Et les travaux de Chisholm sont super clairs là-dessus.
Ça veut dire quoi alors, dans son contexte littéraire?
Ce verset arrive juste après le sacrifice du serviteur souffrant. Donc c'est pas du tout une explication sur le mystère de la souffrance. C'est une déclaration sur la nature complètement radicale de la miséricorde.
Ah, la miséricorde, carrément.
Oui. Pense-y. Face à la trahison, les plans humains penchent naturellement vers quoi ?
La vengeance, le jugement, on coupe les ponts.
C'est clair, la justice punitive. Le texte oppose cette réaction humaine basique au plan divin, qui consiste à offrir un pardon total inconditionnel, basé sur ce que le serviteur a encaissé.
Donc la voie plus élevée, c'est juste la grâce accordée à des gens qui ne la méritent absolument pas.
C'est ça. L'incompréhensibilité, ce n'est pas que Dieu soit obscur, c'est que sa capacité à pardonner dépasse complètement notre petite logique de justice humaine.
C'est une distinction fondamentale, effectivement. Et pour couronner toute cette architecture monumentale, notre exploration d'aujourd'hui intègre aussi les réflexions de chercheurs comme Gordon Hugenberger.
Ses travaux sur les différents rôles du serviteur sont super pertinents, oui.
Ouais, quand Ésaïe décrit le serviteur qui libère les prisonniers des ténèbres, qui les guide vers des sources d'eau sans qu'ils aient faim ou soif, Hugenberger dit qu'on observe la description d'un nouvel exode.
Absolument. Et qui dit exode dit inévitablement Moïse.
Donc le serviteur est un nouveau Moïse.
Oui, un nouveau Moïse prophétique. Sauf que là, il orchestre une libération de la captivité spirituelle de l'humanité, pas juste d'une géographie comme l'Égypte.
Mais le truc, c'est que son rôle ne s'arrête pas là. Le texte mentionne aussi que ce serviteur aura pour tâche de, je cite, « répartir les terres désolées ».
Ça, il est mort avant d'entrer dans la terre promise. C'est Josué qui a pris le relais pour distribuer les territoires.
Donc, en lui attribuant cette fonction précise, le texte fusionne encore un archétype supplémentaire.
Il n'est pas juste le nouveau Moïse qui libère, il est aussi le nouveau Josué qui installe le peuple dans la réalité restaurée.
Cette superposition des rôles, honnêtement, c'est une prouesse littéraire vertigineuse.
C'est le mot, oui. En une seule personne, on a le monarque victorieux du psaume 2.
On a le prophète à la parole tranchante.
L'Israël idéal qui réussit là où la nation a échoué.
Le nouveau Moïse et le nouveau Josué, tout ça réuni.
Et tout ce dispositif s'articule autour d'un seul et unique moteur central, la victoire par la souffrance volontaire. Ça permet vraiment de comprendre pourquoi l'interprétation des auteurs du Nouveau Testament, c'est pas juste un petit recollage maladroit de citations.
C'est un réseau textuel profondément intriqué. Ils ont compris comment ce personnage redéfinissait la nature même du pouvoir et du salut.
Pour clôturer cette analyse, il y a une réflexion qui m'est venue et qui mérite vraiment d'être prolongée, au-delà de l'histoire ancienne.
Vas-y, je suis tout ouïe.
Si on retient cette idée que le serviteur opère comme un nouveau Josué, dont l'ultime mission est de réassigner les propriétés désolées à un peuple qui sort d'un long exil spirituel.
Oui.
On est en droit de se demander à quoi ressemble cette fameuse propriété aujourd'hui. Il s'agit manifestement plus de distribuer des arpents de terre au Moyen-Orient.
C'est sûr que la dimension géographique est dépassée.
Mais du coup, c'est fascinant d'envisager que la terre désolée qui doit être restaurée et réassignée, ce ne soit autre que la nature humaine elle-même.
Oh, c'est une proposition hyper stimulante.
Tu trouves ?
Bah oui. Remplacer un territoire physique par la condition existentielle humaine, ça implique que l'exode accompli par ce personnage, il vise la restructuration interne de l'être humain qui était ruiné par sa propre rébellion.
Exactement. C'est une redéfinition totale de ce que signifie habiter en paix. C'est plus sur un territoire sécurisé par des frontières, mais à l'intérieur d'une humanité reconstruite par le sacrifice plutôt que par l'épée.
Ça donne vraiment matière à réfléchir sur l'impact de ces écrits, même pour nous aujourd'hui.
Complètement. Voilà, de quoi nourrir d'intenses réflexions pour tous ceux qui nous rejoignent dans ces explorations. Il y a toujours plus à découvrir sous la surface de ces textes anciens, et notre discussion d'aujourd'hui en est la preuve parfaite. À très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur de ce qui façonne notre compréhension du monde.